aujourd'hui, nous accueillons donc Oum avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et donc voilà, en petite interview, comment es-tu arrivé à composer ce style de musique? Qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers-là?
Bah, je pense que c'est un peu mes inspirations et c'est aussi ce dans quoi j'ai grandi, tout ce que j'ai déjà écouté quand j'étais enfant. Je viens du Maroc où je suis née, où j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Le Maroc est un pays où il y a une diversité musicale et culturelle de façon générale qui est assez grande. On a pas mal d'ethnies, pas mal de rythmiques différentes, pas mal d'inspirations différentes dans le même pays, la musique andalouse, de la musique berbère. Bien sûr, nous sommes africains, donc rythmiquement aussi. Donc je pense que je n'ai pas essayé de monter une recette en prenant des ingrédients ça et là. Je pense que c'est juste tout ce qui est tombé dans mes oreilles et ce à quoi je me suis intéressée par la suite quand j'étais adolescente. Donc un peu de musique noire, un peu de musique américaine, du gospel, du jazz. Et au final, bah, quand on fait des chansons, je pense que tout ça s'exprime en nous.
Ça se ressent en tout cas bien. Et est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dirigé, enfin qui t'a fait découvrir cet univers, ou est-ce que c'est toi toute seule qui t'y a intéressée et qui a
cet univers? Tu veux dire ce genre de musique?
Oui, c'est ça.
Ben non, je pense que c'est juste ma version à moi de montrer la musique de mon pays. Et la musique aussi dans une certaine façon de faire. Moi, j'ai pas fait d'études de musique, j'ai fait des études d'architecture.
Ah oui, d'accord.
Je n'écris pas, je ne lis pas la musique. Je la fais de façon instinctive et tout à fait spontanée. Et c'est d'ailleurs, entre autres, une façon de montrer, une façon de faire la musique qui fait partie un peu du mode de vie dans certains pays, dont le mien. Donc non, je pense pas que quelqu'un m'a montré. Je pense que je savais même pas en fait que j'allais faire de la musique par la suite. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, et ben petit à petit, s'est forgé un peu cette identité que je pense est juste le reflet de ma personnalité et puis de mon pays encore une fois.
D'accord. Et t'a beaucoup influencé. Ton pays.
Bah oui, je pense que c'est au-delà de l'influence. Je pense que c'est une nature, quoi. C'est naturel. Enfin, tu es enfant, tu vas dans un mariage, tu vas écouter à la fois de la musique andalouse, des chichats du Moyen Atlas, et puis une troupe de gnawa. Donc,
d'accord.
Tu ne choisis pas. Donc, une fois que tu as tout ça dans tes oreilles, le jour où tu fais une chanson, bah forcément, ça sort un peu d'ici, un peu de là, un peu de là, et puis ça fait ça.
ça fait oum.
Alors moi je veux aussi te poser une question. On parle de toi avec la culture Hassani ou la poésie Hassani. Mm-hmm. Alors je voulais savoir la place des poètes dans la culture orientale. Elles ont une place assez prépondérante. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que les poètes ont comme place dans cette culture? Est-ce que c'est plutôt des philosophes, plutôt des conseillers, c'est plutôt des politiques, c'est plutôt du divertissement? Qu'est-ce que représentent les poètes
dans la culture Hassani?
Dans ta culture à toi?
Bah, dans ma culture à moi, je pense que c'est un petit peu partout. La poésie est toujours à la mode pour ceux qui s'y intéressent et la poésie est morte pour beaucoup d'entre nous. Donc là, je pense que c'est le cas aussi au Maroc et dans la plupart des pays où il y a encore des poètes. Dans ce qui concerne la poésie, moi qui m'a beaucoup inspirée depuis quelques temps, c'est la poésie justement de cette culture Hassani, qui sont donc ce sont des tribus arabes, arabophones, mais nomades du désert, que l'on trouve dans le sud du Maroc, mais aussi dans le sud de l'Algérie, jusqu'au Nord Mali. Et donc ce sont des nomades et qui ont une culture, et chez eux, la poésie part plutôt de l'improvisation.
D'accord.
Donc encore, c'est de l'instantané, c'est de l'instinctif et c'est de l'improvisé.
Et ils le font en musique alors ou...
Alors, ben, ça dépend. Ils peuvent le faire en musique ou comme on peut juste s'asseoir ensemble autour du thé à 4h de l'après-midi. Ils vont faire le thé, ils vont discuter. Puis une femme va commencer à raconter un peu sa journée, mais en vers, n'est-ce pas? Donc avec certaines règles quand même. Mais
d'accord.
Ce qui est bon à savoir, c'est que ce n'est pas une culture qui est écrite. C'est rarement de la poésie qui s'écrit. C'est de la poésie qui se dit et qui est instantanée et improvisée, et qui par la suite, pour que ça reste et que ça se transmette, et ben c'est à travers le biais de la musique que cela se fait. Donc une fois que les femmes vont se répondre une fois ou deux, se dire des compliments, je ne sais pas, raconter sa journée, parler de la nuit, de la lune qui est au-dessus de leur tête, par exemple, l'autre va lui répondre, quelqu'un va taper un petit rythme avec deux verres à thé sur un plateau métallique ou juste sur une table, et voilà, il va y avoir une petite mélodie, et puis si ça marche bien, peut-être le lendemain on répétera la même chanson, et peut-être l'année prochaine cette chanson existera. Après, c'est pas des choses qu'on enregistre forcément ou... Très important, c'est que ça se transmet oralement, et la musique est un magnifique biais pour, parce que la rythmique et la rime et la mélodie aident à retenir les choses.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Alors, moi je vais prendre par rapport au thème donc, du festival de cette année. Donc c'est le déclin de l'Empire du Mal. Et en lien à ça, j'ai...
du mal avec A. Du mal, de l'homme.
L'homme.
Ah oui.
Ah oui. Ah oui.
Ok. Voilà. Et donc par rapport à ça, je voulais savoir si dans tes tournées que tu as fait, est-ce que ça t'est arrivé justement en tant que femme de te sentir mal vue du fait de monter sur scène et d'oser chanter et t'exprimer face au monde?
Alors, me sentir gênée parce que je suis une femme, pas exactement, mais me sentir gênée pour ne pas avoir pu m'exprimer, enfin, me tenir, me vêtir, bouger mes bras, mon corps, comme j'ai l'habitude de le faire sur d'autres scènes. Oui, c'est arrivé une fois et c'était au Koweït.
Ah oui.
Oui.
Et tu avais
en
reçu...
fait, on est arrivé, ils ont dit il faut se couvrir, il faut pas avoir les bras, tout ça, et que personne n'avait le droit de danser, même pas dans le public. Tu sais, c'est pas une super pub que je fais au Koweït, mais c'était très très marquant et ça nous a tous un petit peu bouleversés. Donc on est, ouais, tous d'ailleurs, parce qu'en fait c'était interdit de danser, c'est pas parce que t'es une femme.
Oui, c'est tout le monde.
C'est un festival, ils nous ont programmé, ils savaient qui j'étais, ils ont vu mes photos, ils ont vu ma musique, mes vidéos. Mais quand même, on est venu avec tous mes copains et on s'est mis sur la scène et on était un peu coincés et c'était difficile d'ailleurs. Je me souviens des fois avec Damien, le contrebassiste, pendant la balance, il faisait des petits trucs comme ça. Je dis mais arrête s'il te plaît, ne fais pas danser. Tu me mets en danger.
Et oui, et les gens, comment ils exprimaient le...
En tapant du pied sur les gradins. Comme ça allait jamais au-delà de ça.
D'accord.
Ils étaient très très contents, mais ça se voyait, les pauvres aussi, ils se retenaient beaucoup. Et c'était vraiment pas cool. Hein. On est rentrés très tristes. Ouais.
Par contre, ce qui est rassurant quand même, c'est que dans, apparemment, c'est la seule fois où tu as eu ça. Ouais. Dans le reste du monde arabe, on peut danser, on peut monter sur scène, danser, chanter.
Bah, le reste du monde arabe, je ne l'ai pas vu en entier. Ouais, mais là où j'ai été, on a eu franchement des super super moments, que ce soit dans le Maghreb, en Tunisie, en Algérie, en Égypte. Magnifique public, super contact, super rapport à la musique, très belle oreille, ils apprennent tout vite, super accueillant. Où est-ce qu'on a été encore dans le monde arabe, bien sûr. Où est-ce qu'on a été encore dans le monde arabe? En Égypte,
Liban. Liban.
Oui. Ah oui, super. À Beyrouth, c'était très 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 chouette aussi.
Ouais.
En Jordanie, très bien.
Alors, toujours dans la thématique du festival, tu as été en 2012 à la Journée internationale de la femme à l'UNESCO. Tu as été faire un concert là-bas. Oui. Qu'est-ce que ça représentait pour toi de faire ça?
Une logique et une cohérence certaine. Je suis une femme, je suis africaine.
Ouais.
Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais quand on m'a invité pour le faire, bien sûr, j'ai dit oui.
La position de la femme en Afrique, il y a des choses à améliorer, il y a des choses qui peuvent bouger, il y a des...
Certainement. Il y a pour la femme en Afrique et ailleurs. Sinon, il n'y aurait pas la thématique du festival cette année, bien qu'on soit en Belgique et en Europe où tout va bien, relativement. Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à, bien sûr, à améliorer, à rectifier, à corriger, à arrêter. En Afrique, je ne sais pas, je ne peux pas parler de tout le monde exactement, mais voilà, au Maroc... ça avance, il y a du changement, il y a de l'amélioration, le code de la famille a été changé, il n'y a plus de polygamie ou alors avec beaucoup de conditions qui la rendent un peu impossible. Donc il y a un travail, mais on les voit les femmes, on sait qu'elles souffrent. C'est chacune souffre d'une façon, d'un manque de liberté, de liberté, il y en a beaucoup. Donc dans les problèmes aussi de santé, tout ça, c'est très très compliqué. Et ça se voit, je veux dire, après ça s'arrange pas que c'est pas avec les papiers, avec les lois que ça s'arrange, c'est vraiment dans les mentalités. Et pour que ça s'améliore, et ben, il faut que ça commence très vite, très tôt, très jeune. Donc par l'éducation et par l'école, il faut entrer les bonnes idées dans la tête des enfants. Pour que ça puisse changer. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Une femme adulte qui vit dans une situation compliquée avec son mari, je ne sais pas, qui l'abat, qui l'empêche de je ne sais quoi, peu importe, elle ne travaille pas. Elle dépend de lui. Souvent, dans ces pays-là, dans nos pays, il y a une grande partie des femmes qui dépendent...
Restent à la maison,
Non, mais qui dépendent d'un homme.
Ouais.
Qui existe par cet homme. D'abord, c'est ton père. Ensuite, peut-être ton frère. Si tu te maries, tout va bien. Donc, mais ce sera quand même ton mari. si jamais il meurt, bah, c'est ton fils, parce que c'est le mal.
Ah ouais.
Bien sûr, c'est un peu ton tuteur, c'est... Un fils peut dire à sa mère pourquoi tu t'habilles comme ça pour sortir, ça existe.
Ah ouais, d'accord.
Bien sûr.
Okay.
Donc, moi, c'est vraiment ça qui me fait mal et qui me touche et que je me sens un peu impuissante par rapport à ça. C'est qu'il y a beaucoup de malheurs dans des femmes où ça ne se voit pas forcément, parce qu'on est né aussi et on apprend à faire avec, c'est comme ça.
Ouais.
Mais c'est pas censé être comme ça. Après, toutes ces femmes-là ne voyagent pas forcément, n'ont pas de lien pour voir à l'extérieur comment ça se passe, pour éventuellement envisager aussi une autre possibilité, une alternative. Elles ne l'imaginent même pas.
Oui, non.
Donc, c'est ça qui est douloureux, en fait. C'est que c'est comme si, pour toutes ces femmes et toutes ces filles, parce que peu importe l'âge, c'est compliqué.
Tu veux dire, elle souffre, mais elle ne sait pas de quoi vraiment elle a...
Bah, peut-être qu'elle sait pourquoi, mais après, c'est ainsi.
D'accord.
Okay. Il n'y a pas d'issue. C'est vraiment cette chose-là d'impuissance,
ouais.
de changer quoi, parce que c'est comme ça, de toute façon. Donc,
ouais. Mais imagine-toi, le fait de toi monter sur scène et de faire ce que tu fais, c'est déjà un acte militant, quelque part. Ça montre déjà aux femmes qu'il y a moyen de prendre des initiatives et de bouger un peu.
Ben, je ne sais pas. Des chanteuses, il y en a, hein, dans mon pays aussi. C'est pas, je ne suis pas exceptionnelle, je ne suis pas la chanteuse qui ose monter sur scène. Des chanteuses, il y en a toujours eu, hein, au Maroc, depuis toujours.
Ouais.
Après, ce n'est pas le fait de monter sur scène. Moi, si j'ai envie que ça ait un impact, c'est qu'au moins que ça leur dise qu'il est possible qu'on soit une femme, que je leur ressemble, que je parle leur langue, que je porte... leur nationalité, leur religion dans laquelle je suis née, et pourtant je tiens des discours qui des choses qu'on nous dit, par exemple l'amour, on le dit pas vraiment avec verbalement, nous sommes un peuple qui est très très affectueux, qui est très tactile, on se touche beaucoup, on se fait des câlins, tout
mais
ça,
mais on est un peu pudique au niveau de la parole,
donc ouais. À ce niveau là oui, je sens que je fais quelque chose de chouette quand j'arrive à chanter l'amour et le désir et tout ça dans ma langue maternelle, et que finalement par exemple si je suis en concert au Maroc, et il va y avoir dans le public et des mamans et des enfants et des jeunes et des rastas et je vais tous bien passer pour eux tous. Ça me rassure. C'est que c'est pas parce que ça me rassure que je me dis ce que je fais est juste. Ça me rassure parce qu'ils ne trouvent pas bizarre. Ils auraient pu être moi. Je ne les dérange pas. Et pourtant, moi, je parle de quelque chose dont eux, ils ne parlent pas, ni dans le quotidien, ni à l'école, ni... Et donc, c'est pour ça que la musique est intéressante, parce que pour peu qu'on apprécie le musicien ou sa présence ou sa façon d'être avec ses musiciens ou sa mélodie, peu importe, qu'est-ce qu'on aime en moi. Mais si on aime un petit peu quelque chose en moi et que je chante dans mon pays ou dans un autre où il s'agit de ça, eh ben c'est bien que je les touche juste pour qu'elles imaginent qu'il y a une alternative et qu'elle est possible. Je la suis, moi, de temps en temps, cette alternative.
Super. Charline, tu as encore...
J'ai encore une ou deux questions par rapport aux différentes tournées que tu as pu faire. Est-ce que tu as eu l'opportunité de visiter ou de prendre le temps de voir certains pays, de pouvoir te promener dans la population, etc.
En général, tu sais qu'on n'a pas beaucoup le temps parce qu'on arrive la veille ou le jour même et puis on part le lendemain, sauf quand on va un petit peu loin. J'ai pu me balader un petit peu en Inde. Et ou alors quand on a deux ou trois concerts dans le même pays, le cas de l'Égypte par exemple.
Ah oui.
Ouais. Et donc on était pas mal en immersion, oui, effectivement, avec les gens en dehors des concerts. Et c'est très chouette. Mais bon, maintenant, même si on passe 24 heures ou 48 heures, moi ce qui me marque aussi, c'est que ce qu'on retient d'un pays finalement, enfin en ce qui me concerne, hein, c'est pas forcément les bâtiments ou les endroits où on va aller. En fait, tout ce qu'on amène avec nous, c'est ce que nous ont laissé les impressions de ces gens qu'on a très très brièvement, avec lesquels on a très brièvement échangé. Donc ça, c'est aussi les gens comme vous, quand il y a de la presse, ou les gens qui nous reçoivent, les gens du festival, l'organisation, le public. Des fois, quelques personnes du public à la fin du concert. Et je pense que c'est ça qu'on emmène avec nous du pays. Et c'est ça qui, moi, me donne une idée de qu'est-ce que la culture, par exemple, de ce pays. Par exemple, on est allé en Russie, on n'a pas eu beaucoup le temps. On a beaucoup fait la route. Et la Russie, c'est très, 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 très différent de tout. Et donc, le temps passé avec ces gens-là, au restaurant, ou peu importe. Donc, on pose plein de questions. Et c'est même pas quand ils nous donnent l'information. qu'on a les réponses. C'est dans la façon dont ils donnent l'information et dans la façon dont ils discutent entre eux que finalement tu aperçois un peu des semblants de... Tu dis, bon, bah, chez eux, c'est comme ça, et oui, c'est différent ou quoi.
Ouais.
Et voilà. Donc, je ne me plains pas du tout que ce soit très court nos séjours à chaque fois qu'on va jouer quelque part. Il y a aussi quelque chose de bien là-dedans. C'est dans l'humain, en fait, que se transmettent les choses et la culture.
Vous avez quand même l'opportunité de découvrir cette culture à travers les gens que vous voyez. Mm-hmm.
À propos de cultures différentes, dans ton dernier album, tu as joué avec des musiciens cubains.
Bah oui,
il y avait...
en voici un.
Ah voilà, en voilà.
Inor Sotolongo.
Ok, et tu as une raison particulière? Tu t'es intéressé par les musiques latines
C'est pas parce que je m'intéressais aux musiques latines que je suis allée chercher ces musiciens. En fait, c'est le directeur artistique qui a dirigé mon précédent album,
ouais,
qui m'a présenté des musiciens, et parmi eux, eh ben, il y avait des Cubains et ça tombait bien. Et je trouve que, ouais, il n'y a pas de hasard, parce que j'aurais pu m'intéresser à cette musique parce que forcément il y a l'africanité un peu qu'on a en commun,
ouais,
et dans les rythmiques, tout ça, mais aussi la façon d'être. Et je le découvre de plus en plus maintenant. On est ensemble depuis 2 disques, donc un peu presque 6 ans.
Yeah.
Et entre temps, j'ai été à Cuba. Damien parle un peu marocain, il essaie de jouer un peu du guembri. Donc, c'est chouette.
Ouais. Tu as pu tomber sur des Russes aussi, hein? Et...
non, mais je sais pas si on aurait été aussi loin. Et quoique, hein, je sais
quoique,
pas.
Hein. Quoique, ouais, voilà. Quoique. Ouais. Ok, bah écoute, merci
d'être
passé. Et là, tu es vraiment en immersion parmi nous avec tous les alternatifs et toutes les associations,
yes,
alternatives en Belgique. Merci d'être passé.
C'est super, j'adore ce festival. J'ai pas encore tout visité, mais.
Ah, tu vas voir en haut,
c'est bah bon. Ouais.
Ouais.
C'est un peu Alice au pays des merveilles, je trouve ça très cool.
Ouais.
Ah, merci.
Un grand merci.
Merci à vous.
Donc, on peut donc retrouver ce soir de 18 à 19h sur la scène Alpha pour ceux qui sont intéressés à venir écouter.
On y sera.
Merci à tous.